La persistance de la donnée a toujours été compliquée, notamment lorsqu'il s'agit de tacler des problèmes aussi délicats que la disponibilité ou la mise à l'échelle. Longtemps, on s'est appuyé sur le modèle master-slave pour la haute disponibilité. Mais si ça venait résoudre plus ou moins le problème, ça ne résolvait pas celui de la mise à l'échelle. Puis, il y a eu l'arrivée des bases de données NoSQL. Distribuées, faciles entre guillemets à mettre à l'échelle, on pensait tenir la solution. Mais c'était sans compter sur le fait qu'elles n'étaient souvent que peu appropriées pour du transactionnel. Aujourd'hui, on assiste à l'essor des bases de données SQL de nouvelle génération, comme Google Spanner, CockroachDB ou encore Yugabyte. Et quoi de mieux pour en bavarder que de recevoir Franck Pachot, développeur advocate chez Yugabyte. Salut Franck, bienvenue.
Et bonjour.
Aujourd'hui, on est là pour parler de Yugabyte. Alors, qu'est-ce que c'est déjà ?
Alors, Yugabyte, c'est une base de données distribuée, compatible Postgres, open source, et on va même dire cloud native, même si ça fait un peu buzzword, parce que c'est vraiment fait pour tourner sur des environnements cloud et avec la même élasticité et disponibilité qu'on trouve sur le cloud.
Cloud native, ça veut dire que tu dois le tourner sur du cloud ou quelque chose s'en rapprochant ou on-prem avec.
C'est pas obligé. Ça peut tourner sur n'importe quelle plateforme. Ça peut tourner sur des VM. Ça peut tourner dans des containers sur Kubernetes. En fait, cloud native, c'est plus que. C'est une base qui est faite aujourd'hui par rapport à cette architecture. C'est aussi une base qui tient compte de la notion availability zone, région et cloud provider. Là où avant on parlait plutôt simplement de deux data centers ou de choses comme ça. Donc cloud native, c'est plutôt ça. Après, on utilise ce terme, je veux dire, dès que quelque chose tourne sur Kubernetes, on met cloud native autour.
D'accord. Alors, sujet sur lequel je reviendrai peut-être un tout petit peu plus tard, mais quand tu dis que ça prend en compte tes availability zones, tes régions et des choses comme ça, c'est par rapport à la topologie de la data ?
Voilà, c'est par rapport au fait que c'est une base distribuée donc qui est active sur tous les nœuds, où tous les nœuds sont égaux. Contrairement à de la réplication streaming où il y aura une première et des stand-by. Et donc, tous les nœuds sont égaux. Du coup, ils peuvent être partout. Pour des raisons de haut dispo, on peut les mettre sur des availability zones d'une même région. On peut avoir des nœuds dans différentes régions. On peut même être multi-cloud, avoir un nœud sur AWS, un nœud sur Azure, un autre on-prem. Donc, tout est possible. Après, bien sûr, on ne change pas la vitesse de la lumière. Là, il faudra tenir compte du data model et de la latence si on couvre des régions aussi larges. Mais voilà, l'architecture permet de faire ça, en fait.
Alors, première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi avoir choisi Postgres comme engine plutôt qu'un autre ?
Alors là, c'était une décision que je trouve plutôt intéressante. L'idée, c'était... Alors moi, je travaille dans les bases de données depuis très, très longtemps. J'ai travaillé pendant longtemps sur Oracle, où l'avantage, c'est qu'on peut travailler des années, des années, des années sur la même techno. Mais ces derniers temps, des bases de données, il y en a une nouvelle tous les jours. Et donc, il y a des bonnes idées dedans, mais ce qu'il y a, c'est que c'est trop compliqué. Donc, la première chose, c'était de se dire, on vient avec une autre base de données, mais on ne va pas avoir un nouveau SQL un peu différent comme on trouve ailleurs. Et donc, l'idée, c'était la compatibilité, en fait. Et la compatibilité avec quelque chose d'open source, et la compatibilité avec quelque chose d'assez puissant et de très compatible SQL. Je veux dire, ça aurait pu être MySQL, mais MySQL est assez loin du standard. Et donc, du coup, être compatible Postgres, ça tombait quand même sous le sens. Et c'est même plus que compatible, c'est-à-dire que toute la partie haute de la base de données, c'est Postgres, en fait. C'est-à-dire que le storage distribué a été plugué sur Postgres. Donc, c'est compatible dans le protocole, c'est compatible dans la syntaxe, dans beaucoup de comportements au niveau requête, procédure. C'est aussi compatible dans le modèle open source, parce que c'est le même type de licence. Et le gros avantage, c'est que, bon, déjà, les développeurs n'ont pas à apprendre un nouveau SQL, puisque même s'il y a un standard SQL, en fait, tous les SQL sont différents. Mais aussi, il y a tout un écosystème d'outils, de framework, d'applications qui existent pour Postgres. Et l'avantage, c'est qu'on bénéficie de tout ça, en fait. C'est-à-dire que toutes les extensions Postgres... Autre chose aussi par rapport à Postgres, c'est l'extensibilité. C'est-à-dire qu'un gros avantage de Postgres, c'est que déjà, il y a beaucoup de features, mais on peut en rajouter. Parce que tout a été construit, je veux dire, des types d'index, je ne sais même plus combien il y a de types d'index sur Postgres, parce qu'il y en a qui sont moins utilisés, mais il y a énormément de choses. Il y a des extensions qui permettent de tout faire. Et donc, ça permet de faire une nouvelle base de données, mais qui est compatible avec plein de choses. Rien que les outils, des outils qui vont générer un modèle de données à partir de Java sur des annotations JPA, par exemple. Ben, on n'a plus qu'à les plugger, c'est le même protocole, c'est la même chose. Et donc ça, c'est un gros avantage, en fait, récupérer l'écosystème. Je vais prendre un exemple, par exemple. Il y a quoi ? Il y a 3 jours, je voyais, il y a quelqu'un qui a fait en open source un proxy qui convertit l'API MongoDB vers Postgres. C'est intéressant si on a une appli Mongo qu'on veut la mettre sur Postgres. Ben, je l'ai regardé, je me suis dit, je vais la tester sur Yugabyte. J'ai rien eu à changer, en fait. Parce que ça génère du SQL Postgres, parce que ça utilise le driver Postgres. Et après, on jette juste un coup d'œil aux index s'il y a de l'optimisation à faire. Mais notre CTO dit ça en disant Postgres, c'est un cadeau qu'il donne tous les jours, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tous les jours, on retire le bénéfice de cet écosystème qu'il y a autour.
T'excuses, Rama Naïveté, mais tel que tu me l'as présenté, et moi je voyais l'inverse, c'est-à-dire que tu as dit que Postgres était en haut et que c'était le stockage qui était distribué. Moi, j'avais plus imaginé des Postgres un peu partout avec une couche d'abstraction au-dessus de tout ça.
Alors justement, c'est la grosse différence avec, par exemple... des choses comme Citus DB, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a commencé à faire du sharding, c'est-à-dire à se dire ben, on veut partitionner notre base sur plusieurs serveurs pour que tous les serveurs travaillent en même temps, on a commencé par faire ça au niveau applicatif et se dire ben, du genre, je gère des clients dans le monde, je vais mettre une base pour les clients français, une base pour les clients allemands, etc. Mais ça demandait du code au niveau applicatif pour faire ça. Et puis ensuite, il y a eu des middleware qui ont fait ça. Par exemple, Citus DB, qui est une extension Postgres et qui est assez répandue aussi, elle fait ça en fait. C'est-à-dire qu'on a plusieurs bases Postgres et on a un master au-dessus de ça qui va nous rediriger. Par contre, l'inconvénient, c'est que chaque base est indépendante. Donc ça marche si, par exemple, on a plusieurs régions parce qu'on va rarement interroger les données de clients de deux pays différents. Ça va être même géré peut-être par des entités différentes dans l'entreprise ou dans le groupe. Mais ça reste séparé. Mais par contre, dans d'autres cas, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un index global qui va indexer des données qui sont dans plusieurs shards. Et donc, ça, c'est du sharding, mais ce n'est pas de la base de données distribuée, en fait. La base de données distribuée, ce sharding, il doit être fait à un niveau plus bas, en fait. C'est-à-dire, je dirais, en dessous du SQL. Le sharding dont on a parlé, il est au-dessus. On a des bases SQL et puis au-dessus, on va séparer. Mais du coup, on ne fait pas une requête entre les deux. Ou alors, c'est une construction qui n'est pas optimale. Ici, en fait, l'idée, c'est qu'on a un moteur distribué qui est en dessous de la couche SQL. Donc, le moteur distribué qu'on appelle DocDB, qui est en fait partie... Bon, les fondateurs de Yugabyte, ils viennent de Facebook, en fait, ils avaient bossé sur Cassandra, ils avaient bossé sur Edgebase, et donc ils ont réutilisé RocksDB, qui est une base clé-valeur. Donc, on n'est pas dans du SQL, on est dans du clé-valeur. Ils ont rajouté toute une partie transactionnelle pour vraiment gérer des transactions. Mais au niveau clé-valeur, là, on fait du sharding, du partitionnement horizontal. Et au-dessus de ça, on met Postgres. Et donc, c'est un fork de Postgres, sur lequel on va merger aussi les mises à jour au fur et à mesure. Et simplement, là où Postgres va écrire des lignes ou des tuples dans des tables ou des entrées d'index, on se plug à ce niveau-là, en fait, et au lieu d'écrire dans les fichiers locaux, ça communique avec cette base distribuée clé-valeur. Et donc, une ligne de table ou une entrée d'index, ça va être un document clé-valeur dans la base distribuée. Et le gros avantage, c'est qu'on a vraiment du sharding à un niveau plus bas, donc il peut être beaucoup plus automatisé, et toutes les possibilités SQL au-dessus. On peut vraiment faire une requête qui va interroger un index qui va lire dans plusieurs shards et puis aller voir les données de la table qui sont à nouveau ailleurs et avoir une transaction qui va mettre à jour ailleurs, etc. Alors là encore, suivant où on est, il peut y avoir de la latence. Si on est dans une même région, bah ça va aller. Si on est entre régions, on va quand même éviter de faire ça sur des use cases critiques où on va voir le modèle de données pour faire ça. Mais l'idée, c'est vraiment l'inverse en fait. C'est que le sharding, il est fait en bas. Il y a la couche SQL dessus. Et après, on peut encore faire du partitioning puisque sur Postgres, on peut partitionner. Mais là, c'est du partitioning qui est au-dessus où il n'y a pas d'index globaux. C'est-à-dire chaque partition a son index.
Si je comprends bien, ton instance de Postgres est quasiment stateless.
Exactement. Sur chaque nœud, il y a des serveurs de ce storage distribué. Et sur chaque nœud, il y a un Postgres qui tourne et qui est complètement stateless. Et donc, on peut se connecter à n'importe quel nœud. Notre SQL va être interprété là-dessus, va être parsé là-dessus. Le query planner va travailler là-dessus. Et simplement, quand il va aller chercher des lignes, il va aller chercher soit sur le nœud où il est, ou soit sur les autres.
Quand on va requêter une base de données dans un code, alors je n'ai pas l'habitude de travailler avec Postgres, mais est-ce que justement on lui donne différents endpoints qu'il peut aller interroger au cas où un ne répond pas ?
Alors exactement, on peut se connecter n'importe où. S'il y en a un qui tombe, notre session va être perdue puisque la session est là. Et on se reconnecte sur un autre, puisqu'il vient de tomber. Alors, soit on passe par un load balancer. Si on est sur Kubernetes, par exemple, on peut passer par un service qui load balance ou même qui fait des entrées DNS en round robin. Ce qu'on est en train de faire, on l'a mis en version bêta le mois dernier, donc c'est tout nouveau. C'est parce que notre expérience, et pas que sur Yogabyte, j'avais aussi vu ça sur Oracle, c'est que même quand on a un middleware qui fait ce load balancer, bah c'est déjà trop à configurer pour les applis. Il y a toujours plein de composants à configurer, donc ça en fait un de plus. Et les gens ne le font pas. Et donc, ce qu'on a fait pour ce cas-là, c'est qu'on a fait aussi un fork du driver JDBC Postgres pour faire un smart driver qui n'a besoin que d'un seul endpoint, mais quand il est connecté à ce endpoint, il va demander la topologie du cluster. Du coup, il a la topologie, il la rafraîchit de temps en temps, et s'il perd la connexion, il se reconnecte ailleurs. Et donc, l'avantage, c'est qu'on lui donne une seule adresse, simplement une parmi le cluster. Et le gros avantage, c'est que ces clusters, ils sont faits pour être dynamiques, en fait, parce qu'on est aussi là pour être élastique, pour ajouter des nœuds. Donc, avoir une liste de trois nœuds dans un cluster, ça peut se faire au niveau de l'appli, mais pas si on en rajoute d'un jour à l'autre.
Ouais.
Donc du coup, avec ça, ça permet cette transparence. Et c'est que le début, on n'a pas encore rajouté. On va aussi voir comment est-ce que c'est utilisé. Mais l'idée, c'est aussi de faire du load balancing. À partir du moment où on se connecte à un nœud, le nœud connaît la topologie aussi des autres nœuds. Et donc, on peut aussi regarder simplement des métriques pour faire du load balancing un peu plus intelligent que d'aller en random. S'il y a un nœud qui est vraiment sous l'eau, c'est pas la peine de balancer des gens dessus, quoi.
Donc, un nœud, c'est le stockage, la couche SQL et la couche Postgres par au-dessus.
Ouais.
Donc, tu peux ajouter autant de nœuds que tu veux, finalement, à ton cluster. Ça fait quoi aussi? Comment est stocker la donnée? Quand je stocke de la donnée, c'est répliqué, c'est dupliqué? Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, mettons que j'ai un cluster avec... j'ai trois nœuds dans trois différentes zones de disponibilité et je veux rajouter un nœud par zone de disponibilité en plus. Comment ça va se passer?
Alors, toute cette partie-là du stockage distribué, il est basé sur les white papers de Google Spanner. Donc, l'idée, c'est que les tables ou les index sont splittés, c'est du sharding, mais à bas niveau, en ce qu'on appelle des tablettes. Mettons, on a une table, elle est splittée en 8 tablettes. Et donc, ce split, il est sur la clé primaire. Donc, soit sur... après, on définit, c'est-à-dire qu'on a un peu étendu la syntaxe Postgres, où quand on définit la clé primaire, on peut préciser si c'est sur du hashing ou sur du range, suivant ce qu'on va faire. Si on n'a que des requêtes avec colonne, égale, quelque chose, on va faire plutôt du hashing. Par contre, si on a des between, des supérieurs à, on va faire du range. Et donc, ces splits, ces tablettes, vont être les éléments qui vont être distribués et répliqués. Donc, ma table qui a 8 tablettes, les 8 tablettes vont se répartir sur les différents nœuds. Et si j'ai choisi réplication de facteur 1, c'est-à-dire pas de réplication, ben, y a juste ça. Par contre, en prod, on fait ça aussi pour de la haute dispo, donc on veut pouvoir continuer si un nœud est down. Donc, on va faire un réplication factor 3. Donc, la tablette aura deux copies. Il y en aura toujours une qui est leader. C'est sur celle-là que j'écris et que je lis. Et il y a des followers qui sont synchronisés. Et synchronisés avec un processus de quorum, en fait. Un algorithme de consensus qui est Raft et qui permet de faire... un consensus. Donc, j'écris toujours sur le leader et mon écriture est validée quand il y a le quorum. Donc, je sais que si je suis en réplication de facteur 3, j'ai été au moins répliqué sur 2. Donc, si un nœud est tombé, je peux continuer à travailler. L'autre chose aussi, dans ce, et ça aussi, ça fait partie de Raft, si un nœud est tombé, les leaders qui étaient dessus ne sont plus dispo et donc, il y a des followers qui étaient ailleurs qui vont faire une élection d'un nouveau leader. Et ça, ça se fait en quelques secondes. Donc, en fait, si un nœud tombe, tous ceux où il y a encore le leader continuent à travailler comme normal. Ceux pour lesquels le leader est tombé, en quelques secondes, ben, ils ont leur leader qui est ailleurs. Donc, en fait, ça se répartit comme ça, sachant qu'il y a un leader, mais c'est par tablette. Donc, on fait quand même du load balancing parce qu'il y a plusieurs tablettes. Donc, ces tablettes, c'est des éléments de table ou d'index. Et j'en ai 8 sur 3 nœuds. Si je rajoute un nœud, automatiquement, il va y avoir du rebalancing, c'est-à-dire qu'il y a des tablettes qui vont se déplacer. En fait, un nouveau follower qui va être créé et puis l'autre qui va être enlevé parce que ça ne sert à rien d'en avoir plus de 3 si on a réplication facteur 3. Et inversement, si un nœud tombe, alors il y a des timeouts qui se mesurent. On ne va pas forcément faire du load balancing si on n'atteint plus un nœud pendant une seconde. Mais par exemple, par défaut, si un nœud, on ne l'atteint plus, ben, les leaders vont être élus ailleurs, ça c'est immédiat, et au bout de 60 secondes, on va considérer qu'il est mort. Et donc là, on va vraiment redistribuer tout le reste en considérant ce nœud comme mort. S'il revient après, il pourra revenir, mais il faudra qu'il se resynchronise avec le tout. Alors que s'il revient avant d'être déclaré mort, ben, il aura juste à resynchroniser le log de ce qui s'est passé avant.
Le facteur qui définit justement le nombre de répliques que tu vas avoir, il est défini au niveau de la base de données ou c'est dans le client qu'on peut le configurer, un peu comme ce qui est fait avec Mongo?
Ouais, non, ça c'est au niveau de la base de données du cluster où on le définit. En général, bon, de toute façon, en général, c'est un si on fait du dev, parce qu'on n'a pas besoin de répliquer plus que ça. Et en prod, ça va être 3. On a quelques clients qui font un replication factor 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent se permettre d'avoir 2 nœuds down. Ça peut être le cas, par exemple, un des avantages, c'est pas qu'un cas de panne aussi, c'est qu'à partir du moment où on peut descendre un nœud sans déranger personne, on fait du rolling upgrade. Sur une nouvelle version, on n'arrête rien, on redémarre des nœuds et avec d'autres. Alors, si on est en application de facteur 3, on va plutôt conseiller de rajouter un nœud avec une autre version et d'enlever quand il est là, parce que le problème, c'est que quand il y a un nœud down, ça continue à bosser, mais si un autre tombe, tout s'arrête. Parce qu'on ne peut plus garantir le quorum. Donc, si on fait du rolling upgrade, on ne veut pas non plus prendre le risque qu'il y ait un truc en panne, donc on fait un serveur en plus. Mais il y en a qui vont préférer faire un replication factor 5, et ça sera toujours des nombres impairs, hein, pour le quorum. Et donc là, il y a 2 nœuds qui peuvent être down, c'est vraiment une sécurité. On peut aller jusqu'à replication factor 9, je crois qu'on n'a personne qui est sur ça, mais ça pourrait exister.
Est-ce que ça rajoute de la latence à l'écriture?
Alors, ça rajoute de la latence dans le sens où, quand j'écris, je dois avoir le quorum. Donc, si le quorum ne vient que de la même zone, de la même availability zone, ça ne va pas rajouter beaucoup de latence. Par contre, on a des gens qui ont des clusters dans plusieurs régions. Et donc là, ça peut en rajouter. Et dans ce cas-là, on amène un peu plus de configuration où on peut faire des zones de préférence. C'est-à-dire qu'on peut se dire, les tablettes, par défaut, elles vont se répartir sur tout le cluster, mais il y a une notion de topologie, c'est-à-dire que chaque nœud, il appartient à une zone, une région et même un cloud provider. Et on peut aussi définir dans la topologie, en fait, que cette table ou que cette partition de table ne soit que dans une certaine région. Donc, c'est là où on va commencer à dire on veut faire du géopartitioning, par exemple pour des raisons légales. Mes clients européens vont être à Paris, mes clients asiatiques vont être au Japon. Et donc, on peut vraiment taguer tout ça. Et en utilisant le partitioning Postgres, on peut faire des partitions qui dépendent d'un country code ou d'un truc comme ça. Et donc, vraiment taguer ça. Et dans ce cas-là, on peut vraiment définir où sont les tablettes et éviter cette latence.
Alors, deux choses me viennent à l'esprit. Déjà, par rapport à la topologie, quelles sont les best practices à ce niveau-là? J'avais dans l'idée que, on va dire que tu as plusieurs instances qui sont dans différentes régions, mais certaines sont dans les mêmes zones de disponibilité. Est-ce que l'algorithme fait en sorte que la première écriture, par exemple, je veux un facteur de 3, la première écriture soit faite rapidement, donc le plus près possible, pour avoir une réplication instantanée, et par contre, la deuxième écriture, donc le troisième réplica, soit plus éloigné pour, par contre, plus de disponibilité?
Alors là, aujourd'hui, c'est envoyé en parallèle. C'est juste que celui qui est plus près va répondre plus vite.
D'accord.
Mais s'il est down, ben, c'est l'autre qui répondra, en fait.
Ouais.
Donc pour le moment, c'est plutôt ça. Au niveau du Smart Driver JDBC, c'est aussi quelque chose qu'on a, la topologie, parce que si on décide de se mettre dans plusieurs régions, on veut aussi que le client se connecte à sa région la plus près, en fait. L'idée, c'est que voilà, mes clients européens se connectent à mon data center, à mes data centers européens, et, sauf s'il n'est plus là. Et s'il n'est plus là, ben, ils auront peut-être de la latence. Donc, il y a vraiment ces configs qui viennent du tagging zone, région et cloud provider. On a aussi un client qui a des nœuds sur Azure et Google Cloud.
Ok, c'est intéressant.
Après, je te coupe. Il y a la latence, il y a aussi le coût à prendre en compte. Parce que le trafic réseau entre zones de disponibilité, entre régions, entre cloud, il faut aussi la prendre en compte, en fait.
Donc, un truc un peu spécifique pour juste bien voir si j'ai compris cette histoire-là par rapport à la zone géographique. Mettons que je suis un site de vente et donc j'ai mes articles pour les clients français qui sont dans une zone géographique, pour mes clients allemands qui sont dans une autre zone géographique et mes clients québécois, on va dire, qui sont dans une troisième zone géographique. Ça veut dire que mes données vont être taguées pour être le plus près de moi possible. C'est-à-dire que je suis en France et donc potentiellement je dois consulter les données françaises. Ces données, elles vont être taguées pour aller dans la région où j'ai le moins de latence.
Oui.
Comment ça s'organise, cette histoire de tag? C'est quelque chose que moi, en tant qu'utilisateur, je dois faire? Ou alors, c'est dans le client, il y a quelque chose à faire au niveau du code? Ou comment ça se
alors,
passe?
Alors déjà, ça va être au niveau du data model, parce que c'est des questions de latence, mais c'est aussi des questions légales. Mmh. Peut-être que pour des raisons légales, on doit prouver que les données des clients européens restent en Europe ou des choses comme ça. Et donc, en fait, pour ça, on utilise les fonctionnalités de Postgres. Ça fait partie des cadeaux qui viennent avec Postgres. Postgres a du partitioning. Et donc, c'est typiquement ça. J'ai une table, il y a le code pays dedans, la table des clients, par exemple. Et je peux partitionner sur le code pays, par liste, par range. Bon, là, pour le cas des pays, ça serait par liste. Et donc, j'ai plusieurs partitions qui sont comme des tables. Et ensuite, ben on utilise les tablespace. L'idée de tablespace sur Postgres, c'est de dire où est-ce qu'on va stocker ça. Donc simplement, on ne va pas mapper des tablespace sur des fichiers, on va mapper des tablespace sur la topologie du cluster. Et donc on va dire, ben voilà, telle tablespace, elle est mappée sur telle région ou sur telle availability zone. Ça a peut-être moins de sens, mais voilà. Donc en fait, on utilise le partitionnement Postgres, puis les tablespace qui mappent sur la topologie du cluster. Donc en dessous, chaque partition va être stockée dans des tablettes, et du coup, ces tablettes vont être taguées pour se répartir ce load balancer uniquement sur ce qui est permis. Et alors, il y a aussi, dans ces trucs-là, il y a toujours des notions, c'est soit une préférence, soit une contrainte. C'est-à-dire que si c'est la latence, c'est peut-être une préférence. C'est-à-dire que si une région est down, ben, tant pis, ça sera un peu plus long, on se connecte ailleurs. Si c'est des questions légales, ben, on ne va pas déplacer les données. Et si la région est down, ben, on attend.
Quels sont les prérequis pour pouvoir faire le tagging? Parce que tu l'as expliqué, c'est cloud natif, ça veut dire que ça va tirer avantage du cloud. Je suis sur un cloud provider comme Amazon, et automatiquement, mes nœuds viennent avec des tags qui concernent ma zone de disponibilité, ma région, etc. Maintenant, si je suis on-prem et que j'ai 3 data centers, par défaut, je n'ai pas forcément cette histoire de zone de disponibilité. Est-ce que moi, en tant qu'utilisateur, je dois faire quelque chose pour taguer mes hosts ou je ne peux pas bénéficier de ça si je suis on-prem?
Non, en fait, c'est au démarrage des nœuds. Quand on ajoute un nœud au cluster, on lui met ses options de placement. Donc, il y a le placement zone, le placement cloud. C'est que des noms, hein. On peut les utiliser aussi par rapport à nous. Si j'ai 2 data centers dans le même coin pour avoir une faible latence, je vais taguer ça en utilisant la zone parce que c'est la même idée. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est les nœuds. Les nœuds appartiennent à une zone région cloud. Et même si c'est on-prem, ben on met le nom qu'on veut hein, derrière. Et ensuite, c'est par rapport à cette topologie que ça fonctionne.
D'accord. Donc, ça, c'est à l'instanciation du nœud qu'on va choisir en fait, les tags qu'on veut lui attribuer. Il les prend dynamiquement quand il est chez un cloud provider ou c'est quelque chose...
Non, c'est quelque chose qu'il faut faire. Après, ces choses-là sont très souvent automatisées. Mm-hmm. C'est-à-dire, bah, si on est sur Kubernetes, ça va être des choses qui vont être automatisées par des opérateurs. Si on est... Alors, la base de données Yugabyte est entièrement open source, avec toutes les fonctionnalités, même backup, même entreprise et tout. Par contre, forcément, la société Yugabyte vend quand même quelque chose. Il y a du support et il y a aussi un software d'administration. C'est-à-dire que si on n'a que quelques bases ou si on en a beaucoup et qu'on veut faire l'automatisation, bah c'est gratuit. Par contre, si on ne veut pas s'embêter et qu'on a 100 bases, on a une plateforme software. Alors, on a une plateforme dans le cloud, bien sûr, tout le monde a ça. Et on a une plateforme software qui, elle, va faire ça automatiquement. C'est-à-dire qu'on a juste à dire, je veux être sur AWS, je veux tel type d'instance et ça va les provisionner derrière en mettant tous les bons tags. Donc, si on en a beaucoup à faire, soit on fait l'automatisation ou soit on l'achète via ça ou via le cloud. Notre autre cloud, c'est pareil, ça tourne sur un cloud, mais ça va provisionner sur AWS ou Google et toutes les régions sont dispo, quoi.
D'accord. Quand on est dans l'approche SaaS, on choisit le cloud provider ou pas du tout? On va juste donner la topologie qu'on souhaite et puis ce sera adapté.
On va toujours choisir le cloud provider parce que l'idée, c'est aussi de savoir où est-ce qu'on a les applis, parce que ça va provisionner la base. Logiquement, on va vouloir la mettre proche des applis. Et donc, même sur le cloud, on va devoir dire sur lequel on veut le provisionner et la région, en fait. Mmh. Et zone de dispo, enfin, toutes ces choses-là. Aussi, les ouvertures des security list et des choses comme ça. Donc voilà, il y a une interface qui permet de faire ça automatiquement derrière.
Dans le modèle de mise à l'échelle, il est simple, c'est bien. Par contre, ça veut dire aussi qu'il y a potentiellement un peu de perte parce qu'on fait tourner tout. Quand on scale, on a besoin pour chaque nœud du stockage, ça c'est sûr. Est-ce que la couche SQL et la couche Postgres sont essentielles à chacun des nœuds? Si je commence à avoir un très gros cluster, par exemple de 100 machines, est-ce que j'ai besoin de faire tourner sur chacune d'elles et Postgres et SQL en plus du stockage?
Alors, en théorie, ça pourrait ne pas être le cas. Pour le moment, on a fait le choix de faire ça par simplicité et vraiment pour avoir tous les nœuds sont égaux. C'est sûr que si on voit des cas où c'est pas utile, où ça pose un problème, on pourra voir. Après, il y a pas mal de settings de mémoire qui peuvent être réglés aussi, c'est-à-dire qu'on peut aussi régler ça en fonction du besoin. Mais l'idée, c'est de se dire, partout où on a des données, on peut aussi s'y connecter, en fait.
Je vois. Et dans Kubernetes, puisque ça marche aussi dans Kube, est-ce que ce modèle est différent? Parce que là, tu n'as pas un pod qui viendrait avec son stockage et puis et puis peut-être les deux couches en même temps. Est-ce que c'est séparé ou pas du tout? Et si c'est séparé, est-ce que ça scale différemment?
Alors, c'est presque pareil. Il y a juste un truc que je n'ai pas mentionné. En plus de ces serveurs qui tournent sur chaque nœud, qu'on appelle les tablettes serveurs, mais qui comprennent aussi la couche Postgres, en fait, hein, c'est tout multithreadé, on a aussi un master qui contient les métadonnées du cluster et qui, lui, est répliqué avec le même facteur de réplication, par contre, qui n'a pas besoin d'être au-delà. C'est-à-dire que si on est en réplication de facteur 3, on a besoin de 3 masters, mais si on a 15 nœuds, on n'a pas forcément besoin de partout. Donc, il y a juste ça. Alors, sur Kubernetes, on a bien sûr des stateful sets, parce qu'il y a besoin d'avoir une identité réseau, il y a besoin de les démarrer dans l'ordre. Et donc, on a un stateful set pour ces tablettes serveurs et un stateful set pour les masters. Donc, ils vont démarrer des pods dans lesquels il y a le tablette serveur qui comprend Postgres dedans aussi. Donc, on a vraiment un pod sur lequel les ports ouverts sont les ports d'administration, le port Postgres. Il y a aussi un port Cassandra, parce qu'en fait, l'idée de cette séparation, on parle beaucoup de Postgres, mais il y a aussi une API Cassandra. On a des clients qui l'utilisent avec l'API Cassandra pour faire des choses qui sont plus proches de ce qu'ils font en NoSQL, mais qui a quand même la même consistance de données que le reste. Donc voilà, on a sur Kubernetes, les pods vont avoir tous ces services et on peut se connecter à n'importe lequel. Sur Kubernetes, on va plutôt mettre des headless services, c'est-à-dire que ce ne sera pas un load balancer, il va juste associer un hostname à une IP et filer une IP en random parmi tout ça, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment besoin d'un proxy, ça rajoute que de la latence. L'important, c'est de se connecter à un nœud. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier sur Kubernetes? Bien sûr, des règles d'anti-affinité, parce que le but, c'est de ne pas avoir non plus... Vu qu'on va faire de la réplication sur différents pod, le but, c'est pas qu'ils se retrouvent sur le même nœud. Ah oui, et pour le storage. Alors, le storage, on peut avoir le choix. Je suis pas hyper fan de ça, mais il y en a qui considèrent que s'ils ont assez de nœuds redondants, il y aura toujours le quorum qui sera up, et donc d'avoir un storage éphémère. Après, ça dépend des données qu'on met dessus. Hein. Mais sinon, l'idée, c'est d'avoir un storage. Alors, l'avantage, il n'y a pas besoin d'avoir un stockage partagé. Il n'y a pas besoin d'aller sur du NFS qui rajouterait de la latence, puisque toute la distribution et le partage se fait au niveau du moteur de base de données. Donc en fait, les stateful sets vont avoir des persistent volume claim qui vont être, alors sur du cloud, ça va être des blocs volume, du EBS et des choses comme ça. Et qui ont l'avantage d'être persistants. Donc, du coup, même si un worker est down, quand il va redémarrer, ils vont retrouver les données. On pourrait se permettre d'en avoir un qui est down qui ne retrouve pas les données, puisqu'on a le quorum ailleurs, et ça veut dire qu'il faudra créer un nouveau worker, et tout va se resynchroniser, mais bon, ça met un peu de temps à se synchroniser. Si on a les données persistantes, c'est quand même une garantie de pouvoir redémarrer au même niveau de dispo assez vite, quoi.
Tout à fait. Maintenant, si je suis consommateur et que j'ai eu l'habitude de développer des applications qui utilisaient du Postgres, c'est quoi la marche à franchir pour arriver à ce modèle-là?
Je dirais qu'aujourd'hui, beaucoup des gros clients, par exemple, bon, là, on est en Europe, on a peu de clients encore en Europe, on démarre à peine. Les gros clients, ils sont aux US, et c'est des gens qui ont vraiment beaucoup de données, c'est aussi ceux qui ont investi dans la startup, etc. Et les gros clients sont surtout partis sur le fait de réécrire leurs applis, et donc sur du microservice. Donc, ils vont avoir des schémas avec peu de tables, quelques tables très grosses, quelques tables qui tournent autour, et puis peu de tables. Et c'est différent des applis qu'on va trouver, des applis legacy qu'on va trouver sur Postgres. On a aussi quelques clients qui ont commencé à porter carrément leur appli. On dit, voilà, on a une appli sur Postgres, on ne veut pas tout réécrire, et on va la mettre directement. Là, il faut faire gaffe à quelques trucs déjà. Par exemple, si on a 500 tables, on ne va pas toutes les sharder. Parce que 500 tables avec un paquet de tablettes par table et par index, ça va faire beaucoup. Derrière, même si c'est des bases de données assez light, parce que c'est du RocksDB, ce n'est pas des grosses bases de données SQL, ça va quand même faire beaucoup, demander beaucoup de mémoire, etc. Et puis, ça n'a pas forcément de sens. Parce qu'en fait, sur un modèle de données qui a 500 tables, il va y avoir 5, 10 grosses tables, celles qui vivent, qui ont des faits, qui grossissent, et puis tout un tas de référentiels. Donc ici, on a la notion de co-located tables, et on est même en train de l'étendre. C'est nouveau, hein. on est dans une startup et Yugabyte est nouveau et donc on l'étend en fonction des besoins. Ce qu'on a commencé par faire, c'est faire un groupe pour toutes les tables qu'on ne veut pas sharder, donc qui seront toutes ensemble, qui vont avoir leur tablette, mais pour le groupe entier. Et puis bah, pour ces besoins-là, on va aller plus loin, faire des table groups, c'est-à-dire qu'avant il n'y en avait qu'un par base et maintenant il pourra y en avoir plusieurs si on veut plusieurs groupes. Alors, par exemple, ça pourrait être une appli qui est vraiment répartie en deux schémas. Peut-être qu'on veut avoir ça. Donc là, il y a quand même du travail à faire au niveau du modèle de données déjà par rapport à ça, en fait. Pas se dire, je vais charger mes 2000 tables en gardant tout par défaut. Et l'autre chose, c'est la clé de sharding. Parce que forcément, il faudra se poser la question, j'ai une clé primaire, est-ce que je veux partitionner par hash ou par range? Et si on prend le modèle comme ça par défaut, ben on a quelque chose par défaut qui est très bête, qui est de se dire que la première colonne de la clé primaire, ça sera du hash, la deuxième, ça sera du range. Ça peut faire du sens pour la clé primaire, pour les index, ben moins, il y a des index, ça dépend vraiment, hein. Il y a des index, on ne fera que des égalités dessus. S'il y a une date, on va souvent aller faire des ranges. Donc si on a partitionné par hash et qu'on a une requête qui va regarder entre deux dates, ben elle va devoir aller tout lire. Donc là, forcément, il faudra se poser la question. Soit on prend le modèle de données et on regarde les clés une par une, et si on a un peu de connaissance du métier, c'est quand même assez facile à voir, hein, il n'y a pas besoin d'aller voir toutes les requêtes. Ou soit on le prend direct, et puis ça dépend aussi si on a automatisé des tests, on le prend direct, et puis on va vite voir les requêtes qui consomment beaucoup. Donc c'est un choix, mais on ne peut pas dire qu'on peut prendre comme ça une appli Postgres et la mettre. Faut se poser des questions à ce niveau-là. Par contre, le code, les requêtes, les procédures stockées, là, il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit. Hein.
D'accord. C'est donc de la migration de schéma, ouais. Principalement. Il y a des outils pour ça ou pour l'instant, c'est quelque chose à faire à la main?
Alors, pour le moment, c'est quelque chose à faire à la main. Et puis, moi, je vois mal des outils pour faire ça, en fait.
C'est très spécifique.
Après, on est en train de regarder des outils qui aident. C'est aussi un avantage de Postgres dans les extensions, il y a de tout. Par exemple, il y a une extension qui collecte tous les prédicats, en fait, toutes les where clauses, et qui permet de lister, j'ai oublié le nom, je ne sais plus si c'est pgqualstat ou si c'en est une autre. Mais par exemple, si on peut faire tourner l'appli, même sur un jeu de données léger, on fait tourner l'appli parce qu'on a de quoi la tester, on récupère tous les prédicats et ensuite on regarde par table. Ou par index, et on se dit, ben voilà, sur cet index, il n'y a que des égalités, sur cet index, il y a des ranges, et donc tout de suite, on peut prendre des décisions. Je ne crois pas trop aux décisions automatiques, par contre, les outils qui aident à faire des listes, quand on a, quand on a 500 tables, il y en a 300 où on n'a pas se poser de questions, parce que de toute façon, elles sont petites, il y en a 100 où il y a des outils qui vont nous permettre de trier vite fait, et puis voilà, et puis après, il y en a quelques-unes où on va peut-être corriger le tir après, quand on a une nouvelle requête, mais... Ça reste quand même beaucoup plus light que de tout réécrire. Mais on ne peut pas ignorer le fait que c'est une base distribuée derrière.
Oui.
Forcément, ça dépend du type de requête qu'on va faire. Hein. Oui, un truc que je n'ai pas mentionné, Yugabyte, c'est vraiment une base OLTP pour du transactionnel. Alors, bien sûr, il y a toujours des requêtes analytiques sur de l'OLTP. Donc, c'est le but. Et il y a aussi des choses optimisées pour ça. Mais on ne va pas faire du data warehouse là-dessus. Quoi.
Oui.
C'est juste pas fait pour ça. Peut-être un jour, mais pour le moment, ce n'est pas là-dessus que ça va être optimisé. Quoi.
Ok. Donc maintenant qu'on sait un peu la marche à franchir pour l'utilisateur, quels ont été les challenges auxquels vous avez été confronté, Yugabyte? Parce que tu l'as mentionné, c'est une start-up, c'est encore jeune. J'imagine que voilà, on ne fait pas une base de données distribuée du jour au lendemain facilement. Je pense qu'il y a des choses un peu délicates. Quels ont été les challenges à créer ce modèle de base de données?
Alors, moi, j'y suis depuis juillet dernier, donc pour moi, c'est assez nouveau. Par contre, je les connais depuis un petit moment, parce que c'est quand même quelque chose qui m'a intéressé depuis un moment. Les fondateurs de ça, ils viennent de Facebook. Bon, après, ils sont passés par Netflix, ils sont passés par Oracle, mais ils ont bossé beaucoup sur Cassandra, sur HBase, et donc... En fait, ils se sont retrouvés sur ces bases qui devaient scaler et qui ont été construites pour des use cases spécifiques. Et bah, c'est un peu l'idée aussi des bases NoSQL, c'est de se dire on focus sur un use case parce que celui-là, il doit scaler à mort et peut-être très rapidement. Et donc, ils ont été là-dedans. Et puis après, petit à petit, on se retrouve vite à se dire ça répond qu'à un use case. Et puis, on reconstruit une autre base. Et c'est pour ça qu'il y a des nouvelles bases tous les jours, parce que ces gens-là reconstruisent des nouvelles bases tous les jours. Et il y a un moment, ils vont se dire finalement, le SQL, c'est pas mal. Est-ce qu'on ne peut pas merger ça? Et parallèlement, chez Google, ils ont fait pareil. Hein. Chez Google, toutes leurs applis, elles étaient sur du Bigtable. Et ça fonctionne, ça scale bien. Par contre, au niveau applicatif, c'est facile de démarrer parce qu'on n'a pas trop de questions à se poser sur le schéma. Par contre, après, tout ce que ne fait pas la base, il faut quand même le faire. Hein. Les transactions, d'avoir un peu de consistance. Si la base ne fait pas de jointure, il faut que l'appli aille chercher les données, etc. Et c'est pour ça que Google est parti sur Spanner après. C'est qu'ils se sont dit, ça c'est bien pour démarrer du NoSQL, mais en fait, les features SQL, il n'y a pas de secret pour lequel le SQL et les bases relationnelles sont là depuis des années et des années, ça aide quand même à avoir du code qui est plus facile à évoluer. Et donc, leur idée, c'était ça. Et donc, quand ils étaient à Facebook, ils avaient déjà l'idée. Et puis après, ils ont réfléchi de voir quand est-ce que le marché et les technos étaient mûrs pour se dire, maintenant, on peut faire du SQL sur ces bases. Et il y a plein de choses qui sont arrivées en même temps. Tout à l'heure, on parlait de Kubernetes et des stateful sets. Ils sont arrivés quand ? Ils sont arrivés en 2016-2017, un truc comme ça. Ça coïncide à peu près quand Yogabyte s'est monté, en fait. Parce que, je veux dire, avant les stateful sets, si on me parlait de base de données sur Kubernetes, non, ce n'est pas fait pour ça. Au départ, il n'y avait pas de volume persistant, il n'y avait rien. Donc, tout est arrivé un petit peu en même temps, en fait. Et avec ce besoin de faire ça. Et quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est que Spanner, chez Google, ils ont mis du SQL, mais très limité. Et en fait, ils l'ont surtout fait pour leurs applis internes. Après, ils le vendent à certains clients qui peuvent avoir des besoins, mais c'était surtout pour leurs applis internes. Et en fait, il y a quoi ? Il y a une semaine ou deux, Google a annoncé qu'ils allaient aller vers de la compatibilité Postgres. Alors, je ne pense pas qu'ils pensent faire la même chose, prendre Postgres et le plugger sur le moteur, parce que c'est des choses qui sont faciles à faire au début, peut-être pas après. Mais ils vont aller vers ça. Et du coup, ça confirme. C'est aussi intéressant de voir que ce qu'on voit sur le marché au niveau de certains clients, on voit que les gens comme Google, ils voient aussi qu'en fait, le premier pas, c'est de dire on fait du SQL. Le deuxième pas, c'est de dire on fait un SQL que plein d'applis connaissent, que plein de firmware connaissent, que plein de développeurs connaissent. Voilà.
On a eu la période où l'hype, c'était beaucoup du NoSQL. Là, on a assisté à un grand retour du SQL avec des bases de données distribuées. Et c'est vrai que là-dedans, c'est peut-être plus restreint. Après, je ne connais pas le landscape en entier, mais je pense à Vitesse, je pense à Cockroach. Il y a d'autres compétiteurs. Ce n'est pas tous Postgres, parce qu'il me semble que Vitesse, c'est plus du MySQL.
Oui, Cockroach. En fait, quand je mentionnais Spanner, je dirais que Spanner était « on met un peu de SQL ». Cockroach en a mis un peu plus et a été vers Postgres. Par exemple, ils sont compatibles au niveau du driver. Et puis aussi, l'autre avantage, le problème, c'est que Spanner, il ne tourne que sur Google Cloud. Et Cockroach a été un peu plus vers là. Mais par exemple, ils ne vont pas avoir des procédures stockées. Ils vont pas, je veux dire, ils sont partis sur plus d'optimisation au niveau storage. Parce que très clairement, quand on prend un storage distribué et qu'on plug Postgres dessus, il y a plein de choses qui marchent, elles ne sont pas toutes optimales. Après, il y a dans l'optimiseur Postgres, dans le query planner, il faut qu'ils prennent en compte la topologie cluster. Au niveau du storage, il y a aussi des choses où il va falloir faire du offloading, en fait. Par exemple, c'est un truc qu'on a implémenté, mais il y en a encore à implémenter. Si je fais un count étoile sur une table, je ne veux pas aller lire toutes les lignes qui aillent dans la couche Postgres pour aller les compter. Je veux que chaque nœud me renvoie le nombre de lignes, des choses comme ça, en fait. Et donc, nous, c'est vrai que ces choses-là, on les implémente petit à petit. On a au départ tout qui marche dans la couche Postgres, et après, il y a des choses à optimiser. Là où Cockroach a commencé par optimiser les features au niveau du storage, mais forcément, il y en a moins aussi. Donc, c'est un peu deux approches. L'approche de Yogabyte, c'était vraiment, Il y a un moment, alors comme je disais, moi je suis jeune là-dedans, mais parce que je suis arrivé il y a pas longtemps, mais je discutais déjà avec eux quand ils ont pris ces décisions. Il y a un moment où ils se sont dit, mais de toute façon, si le but c'est de faire du full SQL avec toutes les features SQL qui ont marché pendant des années et des années et des années, autant les prendre et puis après on optimise.
Ouais.
Et puis peut-être pas tout non plus, parce qu'il y a plein de choses qui ne servent pas forcément à grand-chose. C'est aussi, moi, mon rôle, c'est développeur advocate ici, c'est aussi de faire un peu l'interface, de voir ce dont les utilisateurs ont besoin. Parce que des fois, les utilisateurs, ils vont dire, ah, est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'on peut le faire sur Postgres, on veut le faire. Et après, il faut voir, est-ce qu'ils en ont besoin ou est-ce qu'il y a d'autres manières de le faire? Je vais prendre un exemple, par exemple. Je suis sûr qu'un jour, on va implémenter des vues matérialisées. Même si on ne fait pas du data warehouse, il y a des cas où ça peut être utile. Par contre, pour le moment, chaque fois qu'il y a eu des besoins utilisateurs de vues matérialisées, on les a résolus par des index. Ça peut paraître bizarre, c'est un peu la même idée en fait. Un index, c'est stocker les manières physiquement différentes pour les accéder avec un autre axe d'analyse. Donc c'est un peu la même idée. Et ce qu'il y a, c'est que sur Postgres, ils avaient partitionné et il n'y a pas d'index globaux. Nous, on se retrouve à pouvoir faire du sharding avec des index globaux. Donc finalement, peut-être que nos index vont répondre à un besoin ou on répondait à ce besoin avec les vues matérialisées. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais mettre de vues matérialisées, mais c'est le cas où, quand on regarde quand le besoin est là, il ne faut pas non plus tout implémenter pour se dire c'est sur Postgres ou c'est sur d'autres et on va les mettre. Il faut aussi voir par rapport aux besoins. C'est aussi l'avantage d'être open source. On a aussi des gens qui contribuent. Il y a aussi des choses où on se dit, ben, nous, on n'en voit pas trop le besoin directement. Et puis, même si une personne toute seule a ce besoin, elle peut aussi contribuer. Et la contribution, ce n'est pas forcément faire trop de code. On a des gens juste qui ont fait marcher des extensions qu'on n'avait pas mis juste parce qu'on ne les a pas complètement testées, parce qu'il y avait deux, trois choses à modifier. Comme ça, open source, mais on a des gens qui l'ont fait. Par exemple, le Foreign Data Wrapper. On l'avait dans la roadmap, mais on n'avait pas d'urgence là-dessus. Et on a quelqu'un qui a fait marcher le Foreign Data Wrapper sur Yugabyte. Et ben voilà, du coup, prochaine version, il y est. et on peut accéder à plein d'autres bases.
Ouais. Je suis développeur en 2021. Est-ce que je pars directement sur un modèle de base de données distribuée? Ou alors, c'est encore considéré comme de l'over-engineering? Vaut mieux commencer par un Postgres? Ce serait quoi ta recommandation aujourd'hui si je dois commencer une application from scratch?
Alors, moi, je suis vraiment assez opposé à l'over-engineering et il doit y avoir un besoin derrière. C'est-à-dire que clairement, s'il n'y a pas de besoin de scale-out, partir sur une base de données distribuée, n'importe laquelle, ça va obligatoirement amener une frustration parce qu'il y aura forcément plus de latence quelque part. Après, le besoin de scale-out, ce n'est pas seulement parce qu'on est Facebook et qu'on veut tourner sur 150 nœuds. Hein. En termes de haute dispo, C'est peut-être aussi simplement une bonne raison. Mais non, il ne faut pas partir dessus juste parce que c'est nouveau, c'est clair. Le gros avantage, du fait que c'est open source et du fait que c'est compatible Postgres, le gros avantage, c'est qu'on peut faire un choix ou l'autre et en changer. Mm-hmm. Pour moi, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on part sur un nouveau projet, on se dit, oh, ça serait peut-être bien une base distribuée. Ben, allez sur la base distribuée. Puis si à un moment, vous dites, ça y est, on s'est fait plaisir, mais en fait, on n'en a pas besoin, ben, revenez sur Postgres. Ou inversement, se dire, on ne sait pas si on en a besoin, aller sur Postgres. La migration sera facile, d'autant plus si c'est une nouvelle appli. Je veux dire, autant une appli legacy avec des gros schémas, des choses comme ça, il faudra y réfléchir. Mais si aujourd'hui, on part sur du microservice, où on fait quand même des schémas beaucoup plus simples, je veux dire, passer de l'un à l'autre, ça sera quand même assez facile. On est aussi en train d'intégrer des Debezium, par exemple, pour faire du change data capture. Et donc, même s'il y a beaucoup de données, passer de l'un à l'autre, quand on fait de la réplication logique, ça permet de le faire sans downtime. Donc, l'important, c'est d'avoir le choix. Mais c'est clair que, après, ça dépend de ce qu'on fait. Là aussi, si c'est pour faire du data warehouse, ce n'est pas la bonne solution.
Mais quand tu dis l'important, c'est d'avoir le choix, moi, je vois beaucoup du use case qui se prête quand même à vouloir partir directement sur du distribué parce que, généralement, on fait une application en espérant évidemment qu'il y a une certaine taille critique, mais aussi, comme tu l'as dit, c'est en haute disponibilité tout le temps. Contrairement à, bah voilà, on a une base de données. De toute façon, de la haute disponibilité, on est obligé de l'assurer d'une manière ou d'une autre. Sauf que une base distribuée va permettre qu'il n'y ait pas de coupure de service, là où un modèle plus traditionnel de basculement de base de données ne va pas le permettre. Donc, est-ce qu'il y a pour un développeur qui voudrait prototyper sur Yugabyte aujourd'hui une possibilité de faire tourner un seul nœud pour prototyper, ou alors il doit partir sur déjà un quorum de 3?
Non. On peut faire tourner sur un seul nœud, on peut faire un Docker sur son laptop. Et c'est vrai que c'est là l'avantage. C'est qu'on peut tourner. L'avantage, c'est qu'on tourne sur un seul nœud parce qu'on se dit, bah, j'ai pas besoin de plus. Et rajouter deux nœuds, ça sera deux commandes. Alors que c'est vrai que si on part sur Postgres et qu'on se dit, bah, là, maintenant, j'ai besoin de faire soit du sharding, de mettre du Citus ou de mettre plein de standby en read-only et des choses comme ça, c'est déjà passé un gap en termes de config, d'admin et tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'est l'avantage. Par contre, ça dépend aussi des performances qu'on attend. Et sur certains types d'accès, on sera plus lent sur Yugabyte, même sur un nœud, que sur Postgres. Pour différentes raisons, parce que même si c'est sur un nœud, ça reste quand même une architecture qui est prévue pour plusieurs nœuds. Par exemple, et puis après, c'est peut-être des choses qui s'optimiseront, mais aujourd'hui, tout ce qui est DDL est plus long chez nous, parce que tout le catalogue Postgres. Tout à l'heure, je mentionnais, il y a des tablettes serveurs et puis il y a le master qui a les métadonnées du cluster. Le catalogue Postgres, on le met aussi sur le master. Donc, ça sera toujours un RPC, un remote call quand même. Alors, ça ne pose pas forcément de problème, mais si on aime Postgres pour pouvoir recréer dans des environnements de test, recréer 1000 tables rapidement, ça sera plus long sur Yugabyte. Donc, ça peut être des cas en fait où on se dit, ben voilà, on va être sur Postgres ou on va attendre que ces choses-là soient optimisées. Mais sinon, c'est vrai que si c'est se dire je veux avoir la possibilité de scaler rapidement, c'est vrai que c'est l'idéal parce qu'on a déjà quelque chose. L'idéal, c'est de le prévoir. Et c'est vrai que si on s'est posé les questions dès le départ au niveau du modèle de données, de se dire, bon, ça, on fait du hachage, on fait tout ça, si tout est prêt, c'est facile de scaler. Oui.
Si aujourd'hui, je prototype sur un seul nœud, par contre, au niveau de ce que je peux m'attendre en termes de latence, d'efficacité, donc c'est déjà mesurable, c'est-à-dire que mon prototype à un seul nœud aura à peu près les mêmes performances qu'un prototype à plus d'un nœud.
Oui, après, si c'est pour tester les performances, c'est clair que c'est bien à un moment de mettre plusieurs nœuds, mais là, on est au point de tester les performances. Ma préférence serait plutôt de regarder les plans d'exécution et sur le plan d'exécution de se dire là je tape sur tous les nœuds à la fois, le jour où je vais scaler j'aurai peut-être un problème, mais après je suis un peu idéaliste là-dedans, je sais que voilà. Bon. Côté dev, on a trop de releases à faire rapidement et pas le temps de regarder les plans d'exécution, mais c'est quand même bien de pas avoir à se poser la question au moment de scaler, de se dire ah mais là je me suis planté, ma clé primaire ça devait pas être ça. Là ça serait quand même dommage. Donc, je trouve que c'est bien de partir dans l'idée de se dire un jour, peut-être que ma base, elle ne va pas être contrainte à un seul nœud.
Ouais. Quand on est dans le monde cloud natif, évidemment, on s'attend à plus d'automatisation qu'avant, plus de facilité, moins d'opérations, moins de charges opérationnelles. Est-ce que adopter Yugabyte, ça va me décharger de la partie opérationnelle pour me concentrer sur la partie donc data, purement data et optimisation de la data? Ou est-ce qu'il y a encore quelques opérations un peu qui mériteraient d'être automatisées, qui ne le sont pas encore?
Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a des choses qui sont complètement automatisées. Par exemple, là, tout ce qui est réplication, rebalancing, quand un nœud est down, ça c'est complètement automatisé. Ce qui est pas mal, parce que sur Postgres, quand on part sur des configs avec des standby, même s'il y a des solutions comme Patroni qui vont automatiser les choses, c'est vite complexe. Donc là, c'est vraiment dans le moteur distribué. Donc je dirais, c'est un petit peu comme on a connu les disques, où on répartissait nos fichiers sur les disques et qu'après, on a fait du stripping et on se dit, bah, c'est la couche base qui se débrouille pour répartir tout ça. On est un petit peu à ce niveau-là d'automatisation sur la distribution des données, donc ça, c'est parfait. Après, il y a d'autres choses aussi qui sont automatisées. Ben, par exemple, les backups. Forcément, quand on a un système distribué, on ne va pas prendre des backups de chaque nœud et se demander s'ils sont consistants entre eux. Donc ça, c'est aussi automatisé, c'est-à-dire qu'en une commande, on lance des snapshots sur chaque nœud et ces snapshots vont être backupés. Donc ça, c'est des choses assez automatiques. Et après, ben, comme je le mentionnais, il y a aussi des opérations qui peuvent s'automatiser ou qui sont automatisées dans la plateforme. Donc soit la plateforme software qu'on vend ou soit via le cloud. Via le cloud, on provisionne une base et puis on ne se pose pas de questions. On dit je veux des backups toutes les semaines et pouvoir faire du recovery point in time. Et puis voilà, ça se débrouille derrière.
Comme pour tout ce qui est distribué, est-ce que la complexité à troubleshooter quand on a quelque chose qui ne se passe pas comme on veut augmente elle aussi?
Alors ça, c'est une très très bonne question. Moi, je viens de beaucoup d'années travailler sur Oracle, qui a des défauts, surtout si on doit le payer. Moi, je n'ai pas eu à le payer, c'est mes clients qui le payaient, donc du coup, j'aimais bien la techno. Mais par contre, Oracle, ayant 30 ou même plus d'années, est hyper bien instrumenté. Sur Yugabyte, c'est clair que j'ai une frustration parce que je suis sur un logiciel qui est plus nouveau et où il y a beaucoup moins d'instrumentation. Et on la met petit à petit, hein. Mais où, c'est vrai, les messages d'erreur sont un peu moins parlants, etc. Donc de ce côté-là, il y a un peu plus de troubleshooting à faire, peut-être. Mm-hmm. Du fait que c'est nouveau.
Ouais.
C'est aussi... C'est compensé par le fait que, qu'on est open source et que, du coup, la moindre erreur, c'est Git issue, c'est forum, c'est etc. C'est aussi compensé par le fait qu'on est plus petit. Alors, même si on grossit énormément, hein, j'ai 5 nouveaux collègues toutes les semaines, mais on est environ 200 dans la boîte, donc c'est très très facile de faire le lien entre un problème utilisateur et d'en discuter avec le développeur de la feature. Et ça, c'est quand même assez sympa. Et que l'utilisateur soit gratuit ou payant, en fait, hein, c'est aussi le gros avantage, c'est qu'on a tout intérêt à avoir des gens qui l'utilisent gratuitement, parce que justement, la stabilité du produit va se faire avec le nombre d'utilisateurs. On a quelques gros clients qui vont acheter la plateforme parce qu'ils font des choses à une échelle très grande. Mais c'est important qu'il y ait le plus d'utilisateurs, le plus de Git issue remonté qui nous aide à stabiliser le produit. Donc voilà, il y a peut-être un peu moins d'instrumentalisation, par contre, il y a un support qui est beaucoup plus direct.
D'accord, au niveau de l'offre SaaS, il n'y a pas de différence, sauf que donc c'est l'installation qui est gérée, les backups automatisés, mais au niveau de l'instrumentation sur justement... je ne sais pas, avoir plus de métriques, avoir une meilleure connaissance de sa base. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'offre SaaS?
Alors, il n'y a rien en plus. Il y a le GUI qui est tout intégré, mais il n'y a rien en plus. C'est-à-dire que sur l'offre gratuite, on a aussi accès à toutes les métriques qu'on peut envoyer dans Prometrics, Grafana, etc. On peut aussi tout faire, c'est juste qu'il faut les plugger, en fait. Mais il n'y a pas plus de métriques. Ça, c'était vraiment l'idée au moment de l'open source. Quand ils ont démarré Yugabyte, ils ne sont pas partis tout de suite sur la licence full open source parce que c'était l'époque où AWS commençait à prendre l'open source pour en faire leur truc. C'est le moment où Mongo ont changé leur licence, etc. Donc, ils ont un peu attendu de voir. Et l'idée, c'est quand même qu'aujourd'hui, faire une base de données, quelle que soit la taille et le budget qu'on a, ça prend des années en fait. Donc si on n'est pas open source, si on n'a pas des gens qui contribuent, on ne peut pas aller à la même vitesse. Donc c'était premièrement un besoin. Et la deuxième chose, c'est aussi que au final, voilà, AWS, ils ont déjà assez de bases. Hein. C'est pas exclu, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'ils se disent, alors en plus de DynamoDB, de Aurora, de DocumentDB, etc., on va faire du Yugabyte as a service, alors qu'en fait, ils ont aussi tout intérêt. Ils sont partenaires, ils ne sont pas concurrents. Eux, chez AWS, c'est vrai qu'ils aiment bien leur base de données, mais tout ce qu'ils veulent, c'est vendre du storage, du compute et du network. Hein. Donc, si c'est fait avec quelque chose d'autre. Et puis, au final, les utilisateurs, ils aiment bien aussi que ceux qui managent la base de données soient ceux qui font la base de données, en fait, parce qu'on peut se dire qu'ils connaissent un petit peu mieux. Donc voilà, n'ayant pas ce risque, c'est full open source et ça permet d'avoir aussi ce support qu'on retrouve un petit peu au niveau de Postgres. Hein. Il n'y a pas de support, mais au final, il y a plus de solutions que chez des bases de données commerciales qui ont un support.
Ouais. Alors, en 2021, bon, toi, tu es développeur advocate, mais je suppose que tu vois aussi la partie client. Est-ce que tu vois une forte traction vers ce type de DB et des besoins forts au niveau de tes clients, d'aller vers quelque chose de distribué aujourd'hui où il faut encore beaucoup les éduquer, c'est pas encore acquis que le monde d'aujourd'hui, c'est voilà, on est parti sur de plus en plus des choses distribuées.
Moi, je trouve qu'il y a de l'éducation à faire auprès des DBA. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été DBA, Dev, Ops, entre les deux, à parler avec tout le monde. Mais je connais des DBA, je vais faire la caricature, hein, qui sont dans la cave du data center et qui ne sortent pas et qui pensent que tous les développeurs essaient de casser leur base. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts en fait, à faire tourner des bases parce qu'ils vont dire « mais pourquoi ?» et « c'est pas fait pour », etc. Par contre, si on parle à des développeurs, par exemple, j'ai présenté la solution il n'y a pas longtemps à Genève, à un meet-up DevOps. Ben là, il n'y a que des développeurs. Ça fait des années qu'ils sont convaincus que leurs applis, elles sont mieux sur Kubernetes. Et juste, il n'y avait qu'un truc qui les embêtait au milieu, c'était la base de données. Donc eux, ils ne sont pas là en train de dire « oh non, on n'est pas prêt ». C'est « enfin, on peut faire tourner une base de données ». Et pour de vrai sur Kubernetes, c'est-à-dire qu'on pouvait déjà mettre un Postgres avec une standby et tout, mais là tous les pods sont égaux, on se connecte partout, donc eux vont dire enfin en fait.
Oui.
Et donc ça dépend un peu. Après, ben, en Europe, tout vient un petit peu après, c'est-à-dire que là où aux US ça paraît normal, en Europe il faut un peu de temps. Il y a des gens qui regardent parce que ben, moi j'en ai vu. J'avais bossé, il y a 3 ans, j'avais bossé 1 an au CERN, où ils sont beaucoup Oracle, parce qu'ils sont clients Oracle depuis très très longtemps, mais ils regardent aussi les solutions open source, et je me souviens de discussions où on leur disait est-ce que vous ne voulez pas passer sur Postgres en fait, parce qu'on peut aussi faire des choses sur Postgres, et la réponse c'était on veut bien, mais est-ce que vous garantissez la même haute dispo, parce que c'est ça qui les intéressait quand le LHC tourne. Ils génèrent des données et ils ne vont pas arrêter le LHC parce que la base ne peut plus les prendre. Et là, la réponse, elle est forcément non, parce qu'en fait, sur Oracle, ils avaient toutes les options. Du rack, du data guard, du machin, donc un truc super complexe, mais effectivement, il y a une autre dispo incroyable qu'on ne pouvait pas faire sur Postgres. Ben là, tout d'un coup, c'est une réponse, parce qu'on a le même niveau de haute dispo, c'est-à-dire qu'un ne tombe, la plupart des choses continuent à bosser comme normal, et quelques-unes vont attendre 2 secondes. Donc, ça répond aussi à ce besoin. Mais d'après moi, ça, c'est des applis qui pensent réécrire. C'est-à-dire, c'est des applis legacy qui sont sur Oracle, par exemple, et ils se disent, faut qu'on modernise pour diminuer les coûts des licences, le coût de l'infra, et pour moderniser aussi, passer sur du microservice et des choses comme ça. Et au passage, tant qu'à faire ce changement, si on n'est pas sûr de la scalabilité sur Postgres ou qu'il y a une complexité derrière, là, ça peut être une solution dessus. Oui.
Franck, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes mes questions.
Eh bien, merci beaucoup, c'était super intéressant.
Retrouvez Franck sur Twitter @FranckPachot et Yugabyte sur yugabyte.com. Comme toujours, n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.